RFI, 5h30 à Paris, 4h30 en temps universel. Un nouveau journal consacré à l'actualité africaine avec vous, Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Grégoire, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une, cette prise importante pour les rebelles du M23 dans leur guerre contre l'armée congolaise.
Au terme d'intenses combats, ils se sont emparés de la ville de Masisi, sur le territoire qui porte le même nom. Nous sommes au Nord Kivu, non loin de Goma. Notre correspondant nous en dira plus dans quelques instants. La terre tremble de plus en plus en Éthiopie. Nouveau séisme ayant provoqué l'évacuation de milliers de personnes ce week-end. 67 tremblements de terre depuis le mois de septembre. L'activité volcanique dans la zone inquiète les experts, vous l'entendrez. Combien d'entre eux pourront rouvrir demain pour la rentrée scolaire au Kenya? Le mois dernier, après l'incendie d'un internat ayant fait plus de 20 morts, les autorités avaient demandé à quelques 350 établissements de se mettre aux normes. On fera le point dans ce journal. La politique ensuite, aux Comores tout d'abord, où la campagne se poursuit en amont des élections législatives du 12 janvier, mais où les femmes n'ont encore qu'une toute petite place, vous l'entendrez, malgré les engagements présidentiels. À Madagascar encore, où le message cinglant de l'Église contre les autorités, message lancé pendant les fêtes, résonne encore. L'actu sport également au programme, comme tous les jours, bien sûr. Soyez les bienvenus. De nombreux habitants forcés de fuir une nouvelle fois dans l'est de la RDC. Car après avoir fait sauter le dernier verrou avant-hier, la ville de Katale, dans l'est de la RDC, eh bien, les rebelles du M23 ont poursuivi leur avancée hier pour s'emparer de Masisi, principale ville du territoire qui porte son nom au Nord Kivu. Un point stratégique à moins de 80 km du chef-lieu provincial Goma. Les événements sur lesquels revient ce matin notre correspondant sur place, Héritier Baraka.
La prise de Masisi Centre est intervenue hier en début d'après-midi après d'intenses combats entre les FARDC appuyés par les Wazalendo et les rebelles du M23. Dans la matinée, les combats se sont concentrés dans deux autres localités, Luchebere et Karongole, avant de se terminer dans les chefs-lieux du territoire. Cet habitant a vécu l'avancée des rebelles.
Depuis 10 heures.
Il y a eu des affrontements entre le M23 et les FARDC ici, chez nous à Luchebere, depuis 10 heures et jusqu'à 12h30. Finalement, les Wazalendo et les FARDC se sont repliés et le M23 a pris Luchebere et après ils sont descendus à Masisi.
La chute de cette agglomération, centre administratif local, est confirmée par des sources sécuritaires et hospitalières. Télésphore Mitondeke, rapporteur de la société civile, redoute une catastrophe à la suite du déplacement massif des populations.
Il y a une forte partie de la population qui a pris diverses directions. Il y en a celle, même parmi la population, qui a choisi la direction de certaines agglomérations de Walikale.
Si l'air compte X, les rebelles du M23 ont revendiqué la prise de Masisi Centre. L'armée congolaise n'a pas encore réagi à ces nouvelles offensives. Héritier Baraka, Goma, RFI.
La RDC, où Joseph Kabila n'a pas pris sa retraite politique. L'ex-président serait en simple congé sabbatique. C'est en tout cas ce qu'a affirmé hier Raymond Tshibanda, coordonnateur de la cellule de crise du FCC, la plateforme politique de Joseph Kabila. Il a fait une sortie médiatique pour le moins remarquée à l'occasion de la journée des martyrs de l'indépendance. La RDC sur le champ économique, où les autorités annoncent qu'elles vont doubler le montant du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Il passera de 2,50 à 5 dollars à partir du 1er février. Certains syndicats du secteur public se félicitent de cette nouvelle, mais font tout de même part de leur inquiétude quant à l'application, car la loi de finances 2025 ne prévoyait pas cette augmentation. Quand la terre tremble en Éthiopie, une série de séismes a été constatée dans le pays avec des magnitudes qui ont augmenté, provoquant encore ce week-end des évacuations d'habitants. Ces tremblements de terre se sont concentrés dans les régions rurales, Afar, Oromia, Amara, et ils sont manifestement liés à l'activité volcanique enregistrée dans la zone. 67 séismes depuis le mois de septembre. De quoi inquiéter Cécile Doubre, sismologue à l'École et l'Observatoire des sciences de la Terre de Strasbourg. Elle travaille justement sur le nord de l'Éthiopie depuis 20 ans.
Ça a commencé un petit peu avant, mais c'est vrai que depuis 2-3 semaines, il y a une séquence de tremblements de terre qui a lieu. Alors, on a eu beaucoup de magnitude 4, et là, cette nuit, il y a eu un magnitude 5.6, donc ce qui est quand même relativement élevé pour la région. Si on était au Japon, ça serait une petite magnitude, mais dans cette région-là, voilà, on n'a pas des séismes très forts. Cette séquence, elle est inquiétante parce que les magnitudes sont de plus en plus fortes. C'est une zone qui est affectée par une activité assez volcanique. Donc, il y a une série de volcans qui sont là et ce sont des volcans actifs, alors qu'ils peuvent dormir pendant plusieurs dizaines, centaines d'années, puis se réveiller. Et puis, c'est une zone d'activité tectonique où il y a des grandes failles. Et ces grandes failles forment ce qu'on appelle ce rift est africain. C'est une région où il y a beaucoup de population. Et on a surtout la route qui, en fait, achemine toutes les marchandises à l'Éthiopie via Djibouti. Donc, il peut y avoir des conséquences importantes si, effectivement, il y avait une éruption avec blocage de la route.
L'analyse de la sismologue Cécile Doubre. Ont-ils pu faire les travaux nécessaires pour se mettre aux normes au Kenya ? Les quelques 350 internats que le ministère de l'Éducation a fermés début décembre par mesure de sécurité pourront-ils rouvrir demain pour la rentrée scolaire ? C'est l'incendie d'un établissement dans le centre du pays ayant tué plus de 20 enfants qui avait poussé les autorités à prendre une telle mesure. Elles avaient donné un mois aux concernés pour faire des travaux, mais aujourd'hui, impossible de savoir combien d'entre eux ouvriront leurs portes, Gaël Lalex, et cela concerne de très nombreux élèves.
Pour le gouvernement kényan, il n'y a pas de compromis possible. Les internats qui ne respectent pas les normes de sécurité resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'a annoncé cette semaine le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation, Julius Ogamba, ajoutant que tous les efforts étaient fournis pour assurer un retour à l'école dans les meilleures conditions. Le ministère de l'Éducation a néanmoins été incapable de fournir un chiffre précis du nombre d'internats qui restent fermés. L'Association nationale des parents d'élèves soutient cette décision gouvernementale. « On ne peut pas jouer avec la vie de nos enfants », concède son président Silas David Obuatsa. Néanmoins, le flou de la situation inquiète. La question des frais de transfert des élèves qui ne pourront rejoindre leur établissement initial génère notamment des préoccupations. Les parents ont déjà du mal à joindre les deux bouts, poursuit Silas David Obuatsa. Il y a trois semaines, l'Association des écoles privées du Kenya s'était engagée à ce que les établissements fermés soient remis aux normes pour la rentrée. Contactée par RFI, elle n'a pas souhaité répondre à nos questions. Gaël Alex Nairobi, RFI.
Un sit-in hier à N'Djamena, la capitale tchadienne, pour dénoncer le viol collectif d'une mineure de 17 ans survenu dans la nuit du 1er janvier. La victime rentrait chez elle après avoir passé la soirée au festival d'Ari. Elle a été agressée par plusieurs hommes. Un viol collectif qui émeut l'opinion et provoque la colère des mouvements féministes dénonçant une culture du viol persistant dans le pays. L'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, brièvement arrêté vendredi dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics, Arvesh Sigolam était visé par un mandat d'arrêt depuis mi-décembre après avoir démissionné de ses fonctions dans la foulée des élections législatives de novembre, soit à la suite de l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement. Aujourd'hui, ces nouvelles autorités le soupçonnent d'avoir transféré illégalement 1 million de dollars sur un compte bancaire à l'étranger. Les élections législatives ont vu aux Comores, échéance fixée au 12 janvier. La campagne se poursuit, mais elle fait une fois de plus peu de place aux femmes. En effet, il n'y a que 8 candidates sur 107 au total. De façon générale, la place des femmes reste marginale sur la scène politique comorienne. 2 ministres sur 15, 1 gouverneur sur 3. Un contraste qui interpelle les féministes, alors que le président Assoumani prône régulièrement une plus grande implication féminine dans la gestion des affaires de l'État et des postes électifs. À Moroni, Abdallah Zembaba.
Pour le pouvoir, des progrès sont en marche pour la représentation des femmes. Oumed Msédié, conseiller politique du président Azali Assoumani, défend une dynamique prometteuse malgré certaines limites.
Les femmes s'engagent effectivement en politique pendant les campagnes, mais dès que les campagnes se terminent, elles ont tendance à laisser un peu de côté la politique. Mais ce qui est sûr, elles commencent aussi à prendre des responsabilités importantes au niveau de l'administration publique, des entreprises publiques et parapubliques. Donc le mouvement est là, la dynamique a été enclenchée par le président, je crois qu'elle est en train de prendre.
Pourtant, cette dynamique est jugée insuffisante par Fatouma Mohamed Elias, militante et membre de la société civile. Elle fustige une politique de façade et dénonce un réel manque de volonté.
On a déposé une loi à l'Assemblée pour la parité. Nous n'avons pas été gourmandes, on l'a mis à 40%. Cette loi n'a jamais été promulguée par le chef de l'État. Tous les gouvernements qui l'ont mis en place, il y a toujours eu une figuration. C'est 2 femmes au gouvernement. Je trouve que c'est désolant. Moi, je perds pas Azali, bien qu'il prône l'égalité, mais ça reste juste au niveau langagier, un discours qui n'a pas de suivi.
Même au sein du parti présidentiel, la parité n'est pas effective. En vue des législatives, la CRC est présente dans l'ensemble des 33 circonscriptions du pays, mais seules 5 femmes ont été alignées comme candidates titulaires. Abdallah Zembaba Moroni, RFI.
Vous l'avez peut-être entendu sur RFI pour les fêtes de fin d'année à Madagascar. Les religieux, les deux églises les plus influentes du pays, ont lancé un message cinglant à l'endroit l'endroit des dirigeants malgaches dans un contexte post-électoral, alors que les résultats officiels des élections locales du 11 décembre n'ont pas encore été proclamés. Les religieux ont dénoncé une rupture entre les dirigeants et le reste de la population. Le pouvoir a réagi et s'est défendu. Mais le message de l'Église a trouvé un fort écho sur la Grande Île. Logique pour Denis-Alexandre Lainiricou, historien spécialiste des relations entre l'État malgache et l'Église. Il rappelle justement l'influence de cette dernière sur place.
À partir du moment où les Églises se positionnent, le message est clair pour la population. Parce qu'on considère les églises comme étant des réamandines, donc père et mère textuellement français, donc des gens qui peuvent peser dans l'évolution de la vie nationale. Et là, on a quand même des églises qui disent que non, vous les dirigeants politiques, vous n'écoutez pas la population. Le discours du président de la principale composante du protestantisme malgache a été clair sur ce point-là. À son avis, les dirigeants politiques actuels ont manœuvré pour rester au pouvoir. Donc, c'est cette stratégie de rester au pouvoir coûte que coûte qui a été dénoncée. Le risque, c'est quand même l'exacerbation d'une éventuelle crise politique. Une fois qu'on perd le soutien de Rayamandine à Madagascar, on perd aussi, quelque part, la légitimité.
L'analyse de l'historien Denis-Alexandre Lainiricou. À Antananarive, il est 7h41, 5h41 à Paris.
Afrique Matin sur RFI. Sébastien Duhamel.
Dans quelques minutes, que sont-ils devenus ces 5 millions de Vénézuéliens ayant quitté leur pays après l'élection de Nicolas Maduro en 2013? Eh bien, ils sont aujourd'hui des milliers sur le continent africain notamment. Nous irons à leur rencontre au Maroc pour notre reportage. Une collection dédiée aux auteurs africains pour notre chronique littéraire, d'abord décriée, pourtant très riche. Tirtan Karchanda nous parlera de la collection Les Continents Noirs avec son directeur Jean-Noël Schifano. Rencontre avec l'une de celles et ceux qui ont fait revivre